RFI. Philippe Le Caplain.
Les médias publics francophones s'associent et vous proposent aujourd'hui une série de portraits. Ceux de jeunes militants qui portent un combat citoyen. Ces engagés, nous allons les rencontrer sur tous les continents. L'Europe, l'Afrique et le continent nord-américain. Eliane en RDC, Florian en Belgique, Andrea, Nina et Yelena près de Paris, Arthur en Suisse et Yasmina au Canada.
RFI.
Commençons par nous rendre à Kinshasa. Là-bas, Eliane Kiboubi vient d'avoir 30 ans, elle est avocate, elle a fondé une association, Pacadé Juma Résilience, du nom d'un quartier très défavorisé de la ville, où de nombreuses filles se prostituent pour survivre. Paulina Zidi, pour RFI.
Bienvenue à Pacadé.
Ça c'est Pacadé Juma.
On entend mettre Eliane ici.
Pacadé Juma, c'est une ville dans la ville. 50 000 personnes, beaucoup de femmes et d'enfants qui vivent dans un bidonville. Pas d'eau, pas d'électricité, des conditions de vie inhumaines et surtout beaucoup de prostitution.
Bonjour, vous êtes maître Eliane?
Ça va, c'est bien.
Ça va?
Ça va bien.
Vous avez eu du mal à arriver, il y avait des embouteillages?
Tellement qu'il a plu abondamment, je pris de moto, on a failli tomber dans le... Mais ça va.
Maître Eliane Kiboubi a tout juste 30 ans, elle est avocate et depuis 3 ans, elle s'est engagée aux côtés des femmes de Pacadé Juma.
Vous avez un t-shirt, Pacadé Juma Résilience, ça c'est votre ONG?
Oui, ça c'est notre ONG qui est rien d'autre que initiative d'appui, de soutien, d'accompagnement des enfants, de jeunes filles de Pacadé Juma et d'ailleurs, c'est-à-dire ceux-là qui vivent un peu dans des conditions inhumaines. Cette structure regroupe le femme juriste, il y a aussi le médecin, il y a aussi le sociologue, il y a plusieurs personnes pour accompagner les actions au profit de la population dans ces coins de la capitale et aussi d'ailleurs.
Est-ce que Pacadé Juma, on est au cœur de Kinshasa ici?
Nous sommes à 10 minutes, comme j'aime bien le dire, la République de la Gombe qui est la commune institutionnelle. Et nous sommes en plein capital. Et en tant que, je peux dire, femme, en tant que maman, en tant que parent, en tant que citoyenne, face à tout ce monde, je ne peux pas rester sans mots. C'est pourquoi je me t'ai dit, il faudra mettre le bagage ici.
Est-ce que vous pouvez me raconter rapidement votre parcours à vous?
Je suis née à Kinshasa. Pure
quinoise alors?
Pure quinoise, 100% quinoise. La quinoiserie, je veux dire comme ça. Et je fais mes études au lycée Tobonissa. Puis après, je suis allée à l'université de Kinshasa pour faire le droit. Et je suis avocate.
Pour vous, cet engagement justement contre les violences basées sur le genre, c'était évident dans votre engagement? Vous êtes devenue avocate pour ça?
Je ne suis pas devenue avocate pour ça, mais je dis toujours qu'on n'est né pas actrice sociale, mais on le devient par rapport aux réalités que nous trouvons dans notre société, dans notre milieu de vie. Moi, je suis devenue avocate parce que j'avais vraiment cette ambition de devenir un jour avocat. Ma mère voulait toujours que je devienne religieuse. Malheureusement, je ne le suis pas devenue, mais je dis peut-être c'est un peu cet apostolat que je fais ici à Pacadé Juma. C'est une façon pour moi aussi d'honorer un peu le vœu de ma mère d'une manière ou d'une autre. Et là, on va aller aussi de l'autre côté.
Oui,
chez le Ruth. Maman, on arrive. Elle, c'est Rebecca.
C'est une de vos bénéficiaires aussi.
Oui, elle a 15 ans. Malheureusement, heureusement, elle a déjà son petit garçon de quelques mois. Mais au moins, nous ne pouvons pas aussi l'abandonner. Elle est à l'école. Elle est en 7e, 8e déjà. Donc, l'objectif pour nous, c'est de couper ces systèmes intergénérationnels ici à Pacadé Juma, c'est-à-dire couper les cycles de dépendance, de commerce, de sexe comme le seul moyen de survie.
Merci, Rebecca. C'est lui votre petit garçon?
Ouais.
D'accord. Son nom?
Dieu merci.
Dieu merci.
Je m'appelle Nikaël Loa, membre de la Fondation Pacadé Juma.
Et alors, qu'est-ce qui vous a incité à suivre Maître Eliane?
Elle est une sainte Eliane, parce qu'elle est en train de donner la solution au problème des jeunes filles, des jeunes mères de Pacadé Juma. D'une manière radicale. Pas d'une manière superficielle, mais d'une manière radicale.
Un peu plus loin, nous rencontrons Maman Rose. Elle nous raconte en lingala son parcours.
Eliane, bonjour, bonjour.
Vous êtes?
Oui, oui.
Maman Rose?
Oui, oui.
Ah, vous êtes contente de voir Maître Eliane?
Oui.
Pourquoi vous êtes contente de la voir?
Oh, yo, Maître Eliane, Azam.
Elle explique avoir appris à lire et à écrire. Eliane, c'est une sœur, une maman pour nous, confie-t-elle. Eliane, qui se met à danser avec les enfants de Pacajuma, et l'on découvre alors son énergie débordante qu'elle dit avoir héritée de sa mère.
Elle était enseignante, elle a fait au moins 35 ans en tant qu'enseignante, institutrice au niveau primaire. Et je voyais toujours ma mère, sa détermination de nous envoyer à l'école, bien qu'elle n'avait pas de moyens, mais aussi de conditions. On était dans des conditions, je peux dire, précaires, mais son enthousiasme, elle était là aussi pour encadrer d'autres femmes, apprendre aussi à d'autres femmes aussi à lire et écrire. Je peux dire que c'est vraiment la motivation est venue beaucoup plus auprès de ma mère. C'est elle qui m'a un peu donné ce goût d'être vraiment sur le terrain, surtout d'accompagner les autres.
Et elle repart dans les allées de Pacajuma avec sa détermination intacte. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Reportage de Paulina Zidi à Kinshasa, la capitale de RDC. Un peu de musique, celle de Princesse Erika qui chante Les filles d'Afrique, justement, African Ladies, sur Radio France Internationale.
African ladies around you, can you just know where they're coming from? From another side they talk. Can you feel it? Can you feel it? African ladies are coming to you. Can you just suppose they had tribulations? From another side they talk. Can you feel it? Together we had a prayer. Feel it, can you feel it? 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 D'Afrique, née parisienne, on s'est connu il y a longtemps. Nos voix lyriques, douces rengaines qui chantaient le continent. On glorifiait nos ancêtres sans être allés sur le champ. Qu'est-ce qui a changé vraiment?
Qu'est-ce qui a changé?
Je suis française, ne vous déplaise, on dit afro-descendant. Pour Patricia qui vit là-bas, on dit parfois résident. On se rappelle dans nos lettres, on veut plus nos sentiments. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Ensemble on s'est assise et on a imaginé pour nos enfants une terre promise. Ainsi on chantait tout ensemble sur nos guitares des chants d'amour, des airs de gloire pour que nos enfants ne puissent plus choir. Non, non, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'a changé vraiment?
En France, partons à la rencontre de jeunes féministes réunies au sein du collectif l'hashtag Nous Toutes. Andrea, Nina et Yelena n'ont pas toutes connu MeToo créé en 2007 car elles étaient à l'époque trop jeunes. Elles militent aujourd'hui parce que le combat est loin d'être gagné contre le masculinisme, les courants ultra-conservateurs et l'extrême droite. Un reportage de Radio France en région parisienne.
Elles sont une cinquantaine dans un local du nord de Paris. C'est la nouvelle génération féministe du collectif Nous Toutes. Parmi elles, il y a Andrea, 25 ans.
Là, je suis en train de coller des affiches sur des petits bouts de bois pour faire des pancartes.
Du scotch, des affiches, du bambou pour des centaines de pancartes qui sont destinées à la grande manifestation organisée pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes.
On dit beaucoup, notamment de MeToo, que ça a été un mouvement qui a fait qu'on a enfin écouté les femmes. Les femmes parlent, elles se sentent peut-être plus légitimes à parler. Pour autant, il y a toujours des choses à faire, notamment parce qu'il y a énormément de thématiques aujourd'hui qui font que c'est important. L'élection de Donald Trump, ça fait peur pour les femmes américaines, mais aussi pour nous. Parce que
c'est aussi indirectement restreint le droit à l'avortement.
Exactement. La montée du masculinisme en France.
Ça, vous
les garçons,
constatez-vous ?
Oui, bien sûr, moi je le constate. De toute façon, c'est des choses qui s'exportent des États-Unis en France. Hein, donc,
c'est un masculinisme qui a émergé d'abord par les réseaux sociaux, en fait, au départ.
À la base, hein, c'est des petits groupuscules, mais qui prennent beaucoup de place, qui en plus ont des moyens, notamment parce que les idées de l'extrême droite sont nourries aussi par tout ça, et que l'extrême droite favorise ces idées-là. Partout dans le monde aujourd'hui, hein, mais il y a des politiques qui sont revenues sur certaines choses, sur les droits des LGBTQIA+, sur les droits à l'IVG, sur, voyez, par exemple en Hongrie, par exemple pour avorter, on est obligé d'écouter le cœur du bébé. Oui, ça fait peur, pour nous c'est une menace, on peut perdre des droits.
À côté d'Andrea, il y a aussi Nina, 19 ans, originaire de province. Elle est trop jeune pour avoir connu MeToo, mais pas pour militer.
Militer, ça permet aussi de partager ses idées. Et c'est assez dur, par exemple, quand on va dans un village de campagne. Je me dis que même si on ne peut pas tout changer d'un coup, c'est par petites étapes. Depuis toujours, il a fallu se battre. Mais ça montre qu'il faut être encore plus présent. Forcément, donc, ça pousse à s'engager.
Accès à l'IVG partout et pour toutes, pour un consentement libre et éclairé. Voilà quelques-unes des pancartes confectionnées aujourd'hui. Entre les mains de Yelena, qui fait presque figure d'ancienne avec ses 30 ans, le féminisme est antiraciste.
Mon âme de militante et de féministe, elle a toujours existé. Par mon existence de femme noire, nécessairement, j'ai rapidement été confrontée à la convergence entre le racisme et le sexisme. Et donc, l'élection de Trump, en fait, c'est l'incarnation de la montée de l'extrême droite un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de récupérations que je faisais par l'extrême droite. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les fémonationalistes qui utilisent nos luttes à des fins racistes. Lorsque les agresseurs sont des personnes blanches, l'extrême se mobilise jamais sur les questions de féminicide. Par contre, lorsque c'est possible de le faire parce que les agresseurs sont des personnes racisées particulièrement, c'est ça le fémonationalisme. C'est instrumentaliser nos luttes à des fins racistes. Et c'est contre ça qu'on se bat.
La culture du viol se combat dans nos écoles, nos familles, sur nos lieux de travail, partout.
C'est le jour J, le jour de la grande manifestation. Elles sont des milliers aujourd'hui à défiler dans les rues de Paris. Yelena répond à la presse, Nina distribue des pancartes, avec Andrea qui revient aussi sur le procès Pellico qui résonne dans tout ce rassemblement. C'est le procès de ce mari qui droguait sa femme pour la livrer à des dizaines d'hommes, eux aussi jugés aujourd'hui pour viol.
Ça a beaucoup résonné dans la société française, à l'international aussi. C'est vrai que ça en parle partout, en Espagne, aux États-Unis, vraiment partout. Bah, c'est sûr qu'en tant que féministe déjà, mais en tant que femme, on peut que la remercier du courage qu'elle a eu. Une grande partie des accusés se défendent, ils n'avaient pas l'intention de la violer, sans son consentement, et je ne l'ai pas violée. Voilà, et c'est complètement ahurissant, quoi. En gros, voilà, la défense, elle essaye toujours de trouver des raisons qui viendraient amoindrir éventuellement le fait qu'elle se fasse violer alors qu'elle est, elle y est sédatée. Voir aussi une femme comme elle et qui a décidé de mener son combat sans huis clos aux yeux de tout le monde, de même accepter que voilà, tout le monde puisse voir les vidéos choquantes sur lesquelles elle est violée, sur lesquelles elle ronfle, etc. On peut que la saluer et vraiment avoir beaucoup d'admiration pour elle, je pense. C'est aussi pour ça que je pense à un retentissement international, puisqu'on parle de culture du viol en fait dans ces cas-là, et de déconstruire la culture du viol en fait qui vient derrière et de changer de société. Et je pense que oui, ça a donné un nouvel élan.
Marcher pour lutter contre les violences faites aux femmes à Mexico, mais aussi Istanbul, Madrid ou encore Paris. Selon l'ONU, près d'une femme sur trois en est victime.
La manifestation a fait la une des médias, les messages ont donc été entendus. Mais pour Nina et Andrea, le militantisme continue. 3 jours plus tard, on les retrouve à nouveau dans les rues de Paris, à la nuit tombée, seau de colle et pinceau dans les mains.
On a des messages écrits en lettres capitales sur des feuilles blanches et on les colle sur des murs pour communiquer et interpeller les passants. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut avoir ces publications-là, mais je pense que pas tout le monde y a accès, du coup. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux aussi. Ça permet de toucher un autre public. Et dans les personnes plus âgées, forcément, il n'y a pas eu cette éducation. Donc, ils sont moins sensibilisés, moins au courant.
Et ça peut toucher cette génération, ces générations.
Ouais, je pense.
Alors, qu'est-ce qu'on colle, là ?
Là, on colle « vague de guerre » égale « vague de viol ». Donc là, c'est notamment pour dénoncer les viols qui sont commis en temps de guerre comme une arme de guerre, finalement. Et donc là, on pense notamment au génocide palestinien actuellement. Évidemment, on pense aussi aux victimes du 7 octobre, de toutes les femmes qui ont subi des violences sexuelles ce jour-là. Donc il y a une actualité permanente et c'est constant. Voilà. Et c'est pour ça que ça peut aussi être dur hein, en tant que militant et militante. Pas faire de burn-out, quoi.
On se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté Grand Corps Malade qui slame sur cette maladie de l'audition que sont les acouphènes.
Bonjour docteur. Je viens vous voir parce que je ne l'ai jamais trop raconté, mais j'ai des bruits chelous dans la tête. Enfin, dans la tête, dans les oreilles, quoi. Ça fait longtemps, en fait. Ça arrive d'un seul coup et puis ça revient assez régulièrement. Et puis c'est des bruits, enfin, comme des trucs que je connais déjà. Et du coup, c'est très bizarre, tout se mélange un peu. Je sais pas comment dire, j'entends comme des... Par exemple, j'entends Brassens sur un vinyle, chanson pour l'Auvergnat. J'entends l'accent de ma grand-mère quand elle chantait Ramona. J'entends les voix de mes parents, de celles qui rassurent. J'entends ma plume sur un papier, les premières ratures. J'entends Maggie à la télé qui sonne la fin du week-end. J'entends ma mère pour me bercer qui vient chanter Göttingen. J'entends la sérénité, la quiétude et l'harmonie. J'entends mon premier texte qui parle de famille unie. J'entends ma sœur dans sa chambre qui écoutait les Cures. J'entends nos cris d'enfants quand on sortait dans la cour. J'entends la sonnerie du collège qui annonce la fin de l'heure. J'entends toujours beaucoup plus de fou rire que de pleurs. J'entends les portes du métro et la cohue de la ligne 13. J'entends l'accent des clandos qui vendent des frites merguez. J'entends les piliers de bar qui philosophent et théorisent. J'entends le clocher de la mairie qui sonne le temps des cerises. Est-ce que c'est grave, docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie. Et les premiers phrases hip-hop. J'entends les bombes de peinture, je voulais taguer avec mes potes. Mais j'entends leur ricanement devant mes tags pathétiques. Je suis retourné faire du sport, j'avais un art plus athlétique. J'entends des terrains en parquet, des ballons qui rebondissent. Des clameurs en paquet et des semelles qui crissent. J'entends siffler les arbitres et chanter dans les vestiaires. J'entends gueuler l'entraîneur comme si le match était tiers. J'entends les vannes les plus folles sur les playgrounds de Marville. Les champions de France de chambrette habitaient tous dans ma ville. Sur ces terrains en bitume, j'ai usé tellement de semelles. Je pouvais jouer au clair de lune et ça 7 jours par semaine. J'entends le bel accent corse chaque été loin de la grisaille. J'entends des chants polyphoniques levés du jour à mon rosaille. J'entends traquer les mauresques et tous ces liens qui se soudent. J'entends qu'on m'appelle Fradé, j'entends Patch et Saloud. Est-ce que c'est grave, docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie. Je les accueille et je les aime. Le passé ne me hante pas, mais j'oublie pas ses caprices. Je n'ai pas peur de réouvrir 2 ou 3 cicatrices. Ça y est, je ne crains plus tous ces beaux acouphènes. Quand ils arrivent, je les écoute, je les accueille et je les aime. Ils sont les codes de mon histoire, c'est comme un écho apaisant. Ils forment un rythme, une mélodie et ils font danser mon présent.
Avec les médias publics francophones, les MFP découvrons maintenant Florian Haineuse. À 18 ans, dans la région de Tournai, en Wallonie, il s'est lancé le défi de reprendre la ferme de ses grands-parents pour se consacrer à la culture des fruits et légumes bio. 9 ans plus tard, il possède 22 hectares, travaille en famille et il nous raconte son histoire, les difficultés actuelles de la profession, son hostilité au traité du Mercosur et sa passion pour l'agriculture biologique. Un sujet de Lionel Petit, Martin Messonnier et Hugo Duric de la RTBF.
L'image du maraîcher en été dans les serres où il fait beau, les journées sont longues, c'est chouette, mais c'est aussi l'hiver. On a l'impression de ne pas être vu à sa juste valeur, quoi. Je m'appelle Florian, j'ai 27 ans, donc je suis maraîcher depuis 2016 et en bio depuis les débuts.
Premier, ce serait bien les choux ou les poireaux. En fait, on va mettre les butternuts en dernier parce que sinon, il ne sait pas la sortir.
Au milieu, il sait pas. On va mettre les poireaux, alors c'est ça qui a le plus.
On va faire une palette.
J'ai toujours bien aimé faire des légumes. J'ai commencé dans un petit jardin. J'ai vendu devant la maison. J'ai remis un peu plus l'année suivante. Et voilà, chaque année un peu plus. Mon papa fait de l'élevage viandeux conventionnel, quoi. Donc le bio m'est venu via des stages chez le cousin de maman qui lui est en bio depuis les débuts du bio, donc plus de 30 ans, même 40 je dirais. J'ai vu un peu le système de culture, comment ça se passait, ça m'a plu et du coup j'ai fait le même, quoi. Quand même content de proposer un beau légume sans produit dessus, quoi. C'est quand même un plus. Allez, que ce soit pour la clientèle et même pour moi, j'ai pas envie de travailler avec des produits. J'ai pas envie de travailler avec ça, quoi.
Très fier. Très très fier de lui. Je suis très contente de ce qu'il fait et de comment il évolue. Et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible.
Bonne belle.
Salut France, ça va?
Donc moi c'est Anne-France, je suis la maman de Florian et donc je fais surtout donc la partie vente, désherbage beaucoup et tout ce qui est plantes aromatiques et les choses autres à côté.
C'est pas une grosse camionnette je pense.
Non, ça va.
Il y a des papettes peut-être aussi.
Bah oui, on en met 80.
Ouais.
Ouais, c'est pas une
grosse. À 6 ans, il m'a dit, à Saint-Nicolas, un jour, il m'a dit, je veux des fraisiers. Et donc, on se dit, à 6 ans, des fraisiers au mois de décembre. Et depuis ce temps-là, voilà, c'est ça qu'il voulait faire. Mais maintenant, je ne pensais pas que ça aurait été aussi dur. Il faut se rendre compte que, par exemple, il fait des poireaux. Mais les poireaux, c'est toutes les semaines, dans la boue, dans le froid, qui pleuve, qui vente, qui gèle, qui neige. Et que, voilà, tu pleures tellement, t'as froid à tes mains. Mais ça, c'est aussi la réalité.
Le matin, c'est quand même parfois dur de sortir quand il gèle ou quoi. Faut le temps de se mettre en route quand même, quoi. C'est quand même aussi non-stop, parce que, du coup, qu'on a une diversité de légumes importante, du travail toute l'année, quoi. On finit un légume, on en commence un autre. C'est sans arrêt, en fait. C'est un des désavantages de ne pas avoir de vacances. Quoi qu'on y arrive quelques jours maximum, mais c'est jamais simple quand même. Je pense que c'est un peu une frustration des agriculteurs. On parle de ramener des produits de l'autre bout du monde alors qu'on nous parle tous les jours d'écologie. C'est déjà un non-sens. Et ici, on nous demande toujours plus de traçabilité, toujours plus de contrôle, toujours plus de paperasse. On est quand même à la base des hommes de la terre. Les paperasses, on n'aime pas ça. Au final, on a l'impression qu'on veut qu'on ne soit pas compétitif et qu'on aille chercher la production ailleurs et pour vendre, à mon avis, d'autres produits qui ne sont pas agricoles, quoi. Le problème, c'est que l'agro-industrie a tendance à vouloir faire ce qu'elle a fait avec le conventionnel et avec le bio, quoi. Les grandes surfaces, en général, prennent des marges beaucoup plus importantes sur le bio que le conventionnel, ce qui est quand même un souci, parce que sur certains produits, finalement, le produit à l'achat de la grande surface, il est quasi au même prix que le conventionnel, mais font 5 fois plus de marge dessus, du coup, pour dire que le bio est plus cher, eux s'en mettent plein les poches, quoi. C'est un peu décevant. Pour moi, le bio, c'est une façon de vivre, ne pas toujours dépendre des autres, être un maximum en autonomie, voir pousser les plantes. C'est vrai qu'on doit quand même aller beaucoup sur le terrain, voir ce qui se passe. C'est sûr que c'est plus chouette quand il fait 25 degrés qu'ici maintenant, sous la pluie. Quand je suis dans mon champ, je suis quand même content, je préfère ça que d'être à l'intérieur. C'est quand même un métier qu'on aime et que on est content quand on voit la caisse de légumes, quand elle est prête, et ça fait quand même plaisir, quoi. C'est une fierté de son produit quand même, malgré tout. C'est vraiment un métier de passion, sinon on ne le fait pas. Si on n'aime pas, on arrête très vite, je crois.
Ils sont dans une caisse pour le bon, c'est tout, quoi.
Je vais reprendre les vidanges.
C'est lourd.
C'est un projet à long terme, c'est énormément de travail, mais c'est de la satisfaction aussi quand on voit où on arrive quand même. Ce qu'on pensait faire au début n'est pas exactement ce qu'on fait maintenant, et dans 10 ans sera encore sûrement différent. Il faut tout le temps savoir s'adapter, et j'ai l'impression que si on n'arrive pas à s'adapter, on est très vite dépassé par les événements, quoi. On nous dit qu'on veut une agriculture familiale, mais on fait tout contre l'agriculture familiale. Donc, déjà en agriculture, reprendre une ferme hors cadre familial, c'est quand même relativement compliqué. Vu les budgets fous, que ça devient impossible, quoi. Il faut espérer que ça ira, quoi, que... Je pense qu'il y a de l'avenir dans le métier quand même, que le métier est beau, mais espérons qu'il y ait des changements qui se mettent en route, quoi.
Florian Heneuse, qui a 27 ans, est un paysan passionné. À suivre, ce que fait un jeune scout au cœur des Alpes. Avant cela, Philippe Catherine avec « Aime-moi ».
Mon trépas.
aimez-moi. Aimez-moi. Tant que je suis là. Aimez-moi.
Aimez-moi.
Aimez-moi. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Je suis là. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Aimez-moi. Tant que je suis là. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Aimez-moi, 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 aimez-moi. Aimez-moi, 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 aimez-moi.
Aimez-moi.
Tant que je suis là. Aimez-moi, 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 aimez-moi.
Aimez-moi,
aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi.
Aimez-moi,
aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi.
Aimez-moi.
Tant que je suis là.
Aimez-moi, moi, 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 moi,
moi,
moi,
moi,
moi,
moi,
moi,
moi,
moi,
moi,
moi,
moi.
Moi.
C'était Philippe Catherine qui avait fait sensation, on s'en souvient, à demi nu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Continuons maintenant ce tour du monde des jeunes engagés avec la Suisse romande. Pour faire connaissance d'Arthur Schössler, il a pris la tête de la brigade des scouts de Sauvabelin, la plus importante brigade du canton de Vaud, puisqu'elle est forte de plus de 600 jeunes. Dominique Chauffat de la RTS nous entraîne dans leur STAM au cœur du parc de Montrepos, à Lausanne.
La 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 la. Bonjour tout le monde et bienvenue à la JDU, la journée des unités. Cet après-midi, vous allez participer à un super jeu qui vous amènera à rencontrer justement les chefs des unités.
Une soixantaine d'enfants et de jeunes sont réunis sous une pluie battante en ce samedi après-midi de décembre, réunis pour le rassemblement de quelques équipes de cette brigade des scouts de Sauvabelin, sous le commandement d'Arthur Schlosser. Il a 24 ans, Arthur, et il a pris cette responsabilité de commandant de brigade en mai dernier.
Au départ, je pense que c'est une passion et un hobby, une activité de loisir qui a pris, je pense, de plus en plus de place dans ma vie au fur et à mesure de mon parcours et de mon avancée dans les responsabilités liées au scout. Aujourd'hui, c'est toujours un loisir, c'est toujours une passion et c'est aussi un engagement bénévole assez conséquent, que ce soit dans mon temps personnel, mais aussi dans des moments comme ça avec le reste du groupe, que ce soit pour l'organisation d'activités ou des activités typiquement scout comme aujourd'hui.
Ça veut dire quoi, beaucoup de temps ?
On a tendance à estimer cet engagement à l'équivalent d'un 40-50%. Et je pense que c'est un assez bon pronostic.
Les scouts s'éparpillent pour participer au jeu de l'après-midi. C'est ce qui fait le sel de cette activité d'ailleurs. Des rencontres, des découvertes, en racontant des histoires tout en étant proche de la nature. En l'occurrence, il a fallu revoir au dernier moment toute l'organisation en raison de la mauvaise météo.
C'est vrai qu'on aime toujours bien être 100% en plein air et dans le parc et c'est toujours plus chouette pour nos activités. Là, on fait comme on peut.
Adaptation maximale. C'est une des caractéristiques que vous devez avoir, en fait.
Je pense que c'est assez nécessaire, ouais. Pour toutes nos activités, nos camps, etc., c'est vrai qu'il y a souvent des imprévus et on essaye de faire avec.
Je suis arrivée, j'entendais le chant de brigade et ça m'a fait tout drôle. C'était trop beau.
C'est Sophie Tchoumi qui arrive avec de l'émotion, on l'entend. Elle a été commandante de cette brigade pendant 4 ans. C'est donc Sophie qui a passé le relais à Arthur Schlosser. Et elle nous explique pourquoi c'est lui qui a été choisi pour ce poste.
Déjà, il y a un aspect de timing. Il faut aussi attendre d'avoir juste pas une personne isolée, mais aussi toute une génération qui est prête à reprendre les rênes. Et par rapport à Arthur, cocher toutes les cases pour prendre cette responsabilité. J'ai pu identifier toutes ses qualités, que ça soit humaine, d'écoute, de bienveillance, organisationnelle, une certaine rigueur, et aussi cette passion et cet amour du scoutisme, tout en étant capable de remettre en question notre façon de faire et de pouvoir faire évoluer notre groupe dans le contexte sociétal actuel.
Salut.
Vous êtes au pas un goûter ?
Non.
Oui, on prépare un goûter.
Enfin, des crêpes.
Trop stylé.
Et c'est quoi ça là ?
C'est du beurre.
Tu veux un peu ?
Non, non.
Il est comment, Arthur ?
Cool.
Il en impose.
on va dire.
Il est bien.
Les louveteaux ont de la peine à trouver des défauts à leur commandant. C'est un rôle très particulier qu'il endosse, Arthur Schlosser. Un sacerdoce aussi, parfois.
C'est plein d'émotions assez contrastées, je pense, parce que c'est l'occasion d'avoir une vision globale sur ce groupe dans lequel j'évolue depuis plus de 10 ans et avec les personnes avec lesquelles j'évolue depuis plus de 10 ans. Donc c'est assez enthousiasmant comme ça. C'est des moments de plaisir très concentré, vraiment de bonheur assez fort à mettre sur pied des projets dans le cadre du scoutisme. Puis c'est aussi d'un autre côté des responsabilités assez conséquentes et du coup des moments parfois de stress, de doute, de difficultés. Il y a vraiment les deux revers de la médaille d'un poste à responsabilité, je pense. Tout ce que ça peut nous apporter de positif et parfois de plus compliqué.
La solitude, c'est des fois ça, le poids?
Ça peut l'être parce que, en l'occurrence, en tant que commandant, je suis seul avec cette fonction-là et il n'y a personne qui la partage en même temps que moi. Par contre, je ne me sens jamais seul très longtemps parce que je suis très entouré par d'autres responsables avec qui je peux échanger, discuter et trouver du soutien et de l'aide en cas de besoin.
C'est difficile de vouloir concilier tous les pans de sa vie, les études, les loisirs, le bénévolat dans les scouts. Et une telle implication, sans compter au propre comme au figuré d'ailleurs, ça n'est pas toujours compris par tout le monde. Sophie Tchoumi l'a très vite réalisé.
Mes frères et mes amis sont tous majoritairement scouts, donc il n'y avait aucun problème. Mes parents également. Mais c'est vrai que dans le cadre professionnel, certains de mes collègues ont eu un peu de la peine à comprendre que rapidement j'ai baissé mon taux d'activité en tant qu'ingénieur pour dégager du temps, pour assumer cette responsabilité de commandante. Ouais, je pense que c'est vraiment une question de vision un petit peu de la vie et de la société. Mais pour certains, c'était un peu difficile à comprendre.
C'est vrai, Arthur, c'est pas donné quand même à tout le monde. Hein.
Non, je pense que c'est clairement pas donné à tout le monde. Ça demande du temps et des possibilités pour s'investir bénévolement dans une activité non rétribuée comme ça, que tout le monde n'a pas. Mais le bénévolat dans le scoutisme, je pense que c'est vraiment un fondement du mouvement.
Dans quelques minutes, nous traverserons l'Atlantique pour découvrir ce que fait un adolescent. Ce sera juste après Alain Souchon avec les âmes 50s.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie. Sur la plage du Crotoy, des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris. Sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers. Dans les cabines de plage, derrière. Arm 50s, Arm 50s, dans le radiola, André Verschuren. Les enfants soldats dans les montagnes algériennes. La Picardie est belle sur la route ravie en arrond de plein ciel qui rentre à Paris. Arm 50. Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dos. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme. Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y a un coiffeur. Arm 50s.
Souchon, l'une des voix de la chanson française. Dernière rencontre au Canada cette fois. Elle n'a que 16 ans, mais elle a déjà conçu une application mobile, récompensée par plusieurs distinctions. Elle permet, cette application, d'anticiper les crises d'anxiété et de mieux réguler ses émotions. David Savoie, de Radio-Canada, est allé voir Yasmine Benarous, qui a de grandes ambitions pour continuer d'innover scientifiquement.
Dans les couloirs du Collège Notre-Dame à Montréal, résonnent les voix des professeurs de sciences.
Je parlais de M. Delamarre, c'est lui qui s'occupe d'Expo Sciences.
Okay. Jean-François Saint-Pierre est coordonnateur au soutien à la réussite dans l'école. Il a accompagné Yasmine Benarous durant la conception de son application. Il nous guide dans une salle de classe où une bannière souligne la victoire de la jeune fille dans une compétition scientifique.
Là, il y en a eu d'autres après, là, mais c'est celle-là qu'on a placée.
Donc, elle est tout le temps, dans, à chaque fois que les jeunes viennent dans cette classe-ci, ils voient cette bannière-là.
C'est ça. Puis là, j'imagine qu'ils peuvent poser des questions aux enseignants, savoir qui c'est quoi, c'est qui. Puis, mais comme je disais tout à l'heure, pour de vrai, Yasmine, c'est... T'sais, un élève de secondaire 1 nous parle de Yasmine en sachant que c'est une jeune qui a participé dans les concours puis qui était très, très, très loin. Là. Donc, le nom est connu.
Il se rappelle du moment où il l'a rencontrée.
Ben, Yasmine, en fait, c'est ça. C'est une jeune que j'ai rencontrée dès son arrivée au secondaire. Donc, c'est une jeune fille qui vivait de l'anxiété. Donc, j'ai eu à la rencontrer pour ça. Donc, elle avait besoin de stratégie pour gérer un peu ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans son parcours, évidemment, elle a développé plein de stratégies, puis elle a réussi à contrôler tout ça. Et elle a pris ça, puis elle a créé justement un outil pour aider les jeunes qui, comme elle, ont vécu ou qui vivent l'anxiété. Ouais. Donc, c'est un peu de prendre quelque chose qui était un peu négatif dans sa vie. Elle a créé du positif avec ça, puis elle a réussi à le donner aux autres, si on veut.
C'est dans un café, après un cours, qu'on rencontre la jeune femme pour parler de son application.
Donc, bonjour, je m'appelle Yasmine Benarous, j'ai 16 ans et je suis innovatrice. Donc, Calmos, c'est deux applications, une mobile et une web, pour le suivi des élèves qui ont un trouble anxieux en utilisant un objet connecté, un système d'intelligence artificielle et les données physiologiques des élèves. Donc, en gros, ça fait un suivi nocturne des élèves pour pouvoir prédire et prévenir leur crise d'anxiété avec un suivi qui est plus adapté aux demandes des élèves au secondaire.
Qu'est-ce qui t'a amené à créer ça?
Il y a énormément de raisons, mais d'abord et le plus important, c'était mon expérience personnelle, parce que je suis une jeune diagnostiquée d'anxiété, et pour revenir au point que je voulais toujours transformer mes difficultés en opportunités d'innovation, ça c'était une de mes plus grosses difficultés. En secondaire, je vivais beaucoup d'anxiété de performance, et je faisais beaucoup de crises d'anxiété, et à chaque fois, c'était toujours un peu ce cycle où je performais mal dans un examen et que je passais des heures et des heures à étudier. Donc j'ai décidé que ça devrait pas être une situation qui devrait être autant récurrente, et de pouvoir un peu créer un projet qui viendrait en soutien. Étant donné que les crises d'anxiété, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui avait un impact important, j'ai décidé de, OK, pourquoi pas pouvoir créer un outil qui était capable de mieux supporter les élèves dans ces moments précis, difficiles. Mm-hmm. Et aussi pouvoir un peu optimiser la manière dont les travailleurs sociaux peuvent s'occuper de leurs élèves en pouvant les prioriser selon le besoin.
Sous peu, l'application Calmos sera testée sur une cohorte plus large et le but est de la rendre disponible au grand public.
Je comprends qu'on peut dire dans votre cas, l'adage « la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre » s'applique très, très bien.
Oui, on peut le dire, oui.
La mère de Yasmine, Neila Mesghani, est une chercheuse et professeure d'université dans le domaine biomédical.
Il y a certainement en elle quelque chose qui a fait qu'elle était attirée par les sciences et elle en fait la promotion. Elle en fait, puis elle est impliquée dans, je sais pas, des affaires que des fois, moi, j'oublie même quand elle m'arrive avec ses programmes. Je dis, ah, ça, c'est le programme de... Non, c'est un autre programme. Donc, elle est impliquée dans tant de choses.
Déjà, à 16 ans, Yasmine semble bien déterminée à poursuivre une carrière scientifique.
Ben, mon rêve, c'est devenir ingénieure biomédicale, mais surtout de pouvoir un peu fusionner, c'est ça, santé mentale, santé en général, avec l'innovation technologique. Travailler dans, c'est ça, dans des systèmes d'intelligence artificielle, dans le développement d'applications, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé une passion dedans et j'espère pouvoir continuer à faire ça. Actuellement, ben, je suis élève en sciences de la santé pour ensuite continuer en génie informatique et avec une spécialisation dans le génie biomédical.
De retour au Collège Notre-Dame, Jean-François Saint-Pierre se souvient de la jeune Yasmine.
Moi, ce que je trouve génial, là, puis je l'ai dit, puis je le redis encore, c'est vraiment de puis je la vois là à 12 ans dans mon bureau en train de dire hey, ça marche pas là, puis j'ai un examen tout à l'heure, puis je réussirai pas. Puis je la vois l'année passée en secondaire 5 en disant garde, j'ai un projet qui est hyper reconnu, qui est justement des notes au Canada, on la reconnaît au Canada là. Donc un projet qui est très intéressant. Donc c'est de voir toute cette évolution là, ça c'est le fun à voir, c'est beau à voir en fait.
Ici David Savoie, Radio-Canada, Montréal.
Voilà pour ce tour du monde de l'engagement chez les jeunes, grâce aux médias publics francophones que sont Radio France, la RTS, Radio-Canada, la RTBF et Radio France Internationale. Pour finir ce moment passé ensemble, voici MC Solar avec Super Gainsbourg. Super Gainsbourg.
De la cité, le jeune scribe chétif a tatoué sur le cœur l'étoile d'un shérif. Il masque ses démons en annonçant des psaumes qu'il note sur sa paume dans une rôle ce fantôme. Flick, flank, spliff, stupé, sing, sing. Bébé et petite pépé, pin-up comme bling, bling. On peut frotter des lampes et écumer 15 bars. Ça ne fera pas apparaître le génie d'un Gainsbourg.
Super Gainsbourg.